Wilkie Collins, Mad Moncton. Chapitre 5. J'avais décidé qu'il vaudrait mieux, pour notre début, installer notre quartier général dans la petite ville de Fondi, dans le voisinage immédiat de la frontière. Et moyennant l'intervention de notre ambassade, j'avais obtenu que le cercueil de plomb nous suivrait jusque-là, solidement fixé dans sa caisse d'emballage. Outre nos passeports, nous étions bien munis de lettres de recommandation pour les autorités locales des villes frontières les plus importantes, et ce qui valait mieux, nous avions à notre disposition, grâce à l'immense fortune de Moncton, autant d'argent qu'il nous en fallait pour nous assurer le concours de toutes les personnes qu'il serait bon d'associer à nos recherches. Ces différentes ressources nous donnaient ample facilité d'agir, pourvu toutefois que nous parvinssions à découvrir les restes de notre malheureux champion. Mais si nous venions à échouer en cela, et rien ne semblait plus probable, l'avenir s'offrait à moi sous des couleurs assez sombres, surtout après la responsabilité que je n'avais pas craint d'assumer sur moi. J'avoue que je me sentais mal à l'aise et tout à fait découragé, pendant que nous suivions en poste, et sous l'ardent soleil d'Italie, la grande route qui mène à Fondi. Nous y arrivâmes en 2 jours tout à notre aise, car j'avais insisté dans l'intérêt de Moncton pour que le voyage se fît sans aucune hâte. Pendant la première journée, l'excessive agitation de mon compagnon de route me causa quelques légères alarmes. Il manifestait de plus d'une façon les symptômes d'un trouble d'esprit que je n'avais pas encore observé en lui. Le second jour, cependant, il sembla s'être accoutumé à contempler avec calme la perspective nouvelle des recherches auxquelles nous allions nous livrer, et sauf un point, se montra d'une sérénité et d'un calme assez rassurants. Toutes les fois qu'il était question entre nous de la mort de son oncle, il s'entêtait, sur la foi de l'antique prophétie et sous l'influence de l'apparition que toujours il voyait ou croyait voir, il s'entêtait à prétendre que le cadavre de Stephen Moncton, en quelque lieu qu'il pût être, n'avait pas encore reçu la sépulture. Sur n'importe quel autre sujet, il déférait à mes paroles avec la complaisance, la docilité la plus absolue, mais il maintenait sur celui-ci sa bizarre opinion, avec une obstination qui mettait au défi les raisonnements, les persuasions de tout ordre. Nous fîmes halte le 3e jour à Fondi. La caisse d'emballage qui renfermait le cercueil nous arriva peu après et fut entreposée sous clé dans un endroit sûr. Nous louâmes des mules et prîmes à gage un homme que sa parfaite connaissance du pays mettait à même de nous guider. Il m'avait semblé que nous devions, jusqu'à nouvel ordre, nous abstenir de confier à personne le véritable objet de notre voyage, sauf quelques exceptions soigneusement choisies dans les hautes classes de la société. Sous ce rapport, nous nous trouvions amenés à suivre l'exemple des duellistes sur la piste desquels nous nous étions mis, et c'est ainsi que le 4e jour, de fort bonne heure, nous quittâmes Fondi, emportant avec nous des albums et des boîtes à couleurs, ce qui nous donnait les dehors de ces artistes nomades qu'on voit maintenant partout en quête de paysages pittoresques. Après avoir marché quelques heures en deçà de la frontière des États romains, dans la direction du nord, nous nous arrêtâmes pour nous reposer, nous et nos mules, dans un pauvre petit village, sis à l'écart de la route que suivent en général les touristes. La seule personne de quelque importance que renferma cette misérable bourgade était le curé chargé de la desservir, et ce fut à lui seul que j'allais demander mes premiers renseignements, laissant Moncton et le guide attendre mon retour. Je parlais assez couramment l'italien pour faire comprendre ce que j'avais à dire, et je mis à exposer notre situation autant de prudence que de politesse. Mais nonobstant toutes les peines que je me donnais, Chaque parole sortie de mes lèvres ne servait qu'à effaroucher, qu'à troubler davantage le pauvre prêtre, déjà ému de notre arrivée. L'idée seule d'un duel organisé, d'un homme mort à la suite de ce duel, semblait lui faire perdre la tête. Il saluait, promenait ses mains dans toutes ses poches, levait les yeux vers le ciel, et secouant les épaules d'un air piteux, finit par protester, avec toutes les circonlocutions bavardes que les Italiens trouvent si vite, de son ignorance absolue sur tout ce dont j'étais venu l'entretenir. C'était pour moi un premier échec. Avouerai-je ma faiblesse ? J'étais légèrement découragé quand je rejoignis Moncton et le guide. Lorsque la chaleur du jour fut un peu tombée, nous reprîmes notre voyage. À quelque 3 milles de la bourgade que nous venions de quitter, la route, disons mieux, les ornières creusées par le passage des charrettes, formant une espèce d'embranchement, s'écartaient dans deux directions opposées. Le sentier à droite, notre guide nous l'a pris, menait à travers les montagnes jusqu'à un couvent situé à 6 milles de cette bifurcation. En poussant au-delà du couvent, nous atteindrions très vite la frontière napolitaine. Le sentier à gauche nous conduirait au contraire dans l'intérieur du territoire romain et aboutissait à une petite ville où il nous serait loisible de passer la nuit. Le territoire romain était, en premier lieu, celui qui nous offrait le plus de chances dans nos recherches. D'un autre côté, en supposant que nous revinssions à Fondi sans avoir rien trouvé, nous étions toujours à même de visiter le couvent. En outre, le chemin de gauche traversait dans sa plus grande étendue le pays que nous nous étions promis d'explorer, et j'avais pour axiome qu'il faut toujours attaquer le bœuf par les cornes. Aussi prîmes-nous la résolution virile de suivre la direction que je viens d'indiquer. L'expédition à laquelle nous nous vîmes ainsi entraînés dura toute une semaine, sans produire aucun résultat. Nous ne découvrîmes absolument rien et revînmes à notre quartier général de Fondi, si complètement déçus dans nos espérances que nous ne savions vraiment plus où porter nos pas. L'effet que ce premier revers produisit sur Moncton me troublait bien autrement que le revers en lui-même. À peine revenions-nous sur nos pas que j'avais pu noter en lui un abattement, un découragement inattendu. D'abord inquiet et plein de caprices, il était ensuite devenu silencieux et morne. En fin de compte, je le vis s'absorber dans une léthargie intellectuelle et physique dont je m'alarmais sérieusement. Le jour qui suivit notre retour à Fondi, Alfred manifesta un incessant désir de sommeil qui me fit croire à un commencement de maladie cérébrale. Ce fut à peine si, dans toute cette journée, il échangea une seule parole avec moi, et il ne me parut jamais bien éveillé. Le lendemain matin, de bonne heure, j'entrai dans sa chambre, où je le trouvai aussi muet, aussi assoupi que la veille. Son valet de chambre qui nous accompagnait m'informa qu'Alfred avait déjà laissé paraître une ou deux fois, pendant la vie de son père à Wincot Abbey, des symptômes extérieurs d'épuisement intellectuel, pareils à ceux que nous observions maintenant. Ce renseignement me rassura quelque peu et me permit de réfléchir plus paisiblement sur la mission qui nous avait ramenés à Fondi. Je résolus d'employer le temps que mon compagnon mettrait à se remettre en continuant seul les recherches commencées de concert. Le chemin à main droite qui conduisait vers le couvent n'avait pas encore été parcouru. En y portant mes investigations, je ne m'éloignerai jamais de Moncton pour plus d'une nuit, et je pourrais à mon retour lui donner au moins la satisfaction de savoir que nous avions encore éclairci une des incertitudes relatives à l'endroit où s'était accompli le duel. Ces considérations me décidèrent. Je laissai un message pour mon ami, dans le cas où il s'inquiéterait de mon départ, et je repris la route du village où nous avions fait halte au début de notre première expédition. Ayant pris mon parti d'arriver à pied au couvent, je laissai le guide et les mules à la bifurcation des deux routes et leur enjoignis de retourner au village pour y attendre mon retour. Les 4 premiers milles de la route montaient en pente douce à travers un pays découvert, mais ensuite l'ascension devenait tout à coup plus pénible et pénétrant toujours plus avant, j'arrivais parmi des broussailles et des bocages interminables. Au moment où ma montre m'avertissait que j'avais dû franchir à peu près la distance marquée, je me trouvais dans un endroit où le regard était arrêté de tous côtés par un impénétrable rideau de branches et de feuillages qui, s'étendant également au-dessus de ma tête, me dérobait l'aspect du ciel. Je continuai à suivre mon unique guide, à savoir le sentier escarpé, qui, 10 minutes après, débouchant tout à coup sur une clairière assez unie, me conduisit en face du couvent. C'était un bâtiment sombre et bas, de mine sinistre, nulle part aux alentours le moindre mouvement, le moindre signe de vie. De longues traînées vertes zébraient en tous sens la façade, jadis blanche, de l'église conventuelle. Dans toutes les crevasses de la muraille massive qui entourait le saint édifice, la mousse germait abondamment. De longues plantes échevelées poussaient dans les fissures du toit et des parapets, et entraînées vers la terre qu'elles n'avaient pas rejointe encore, flottaient paresseusement, au-dedans et au-dehors des lourdes fenêtres grillées. Auprès de la porte pendait un cordon de cloche dont la poignée était brisée. J'en approchai, j'hésitai sans savoir pourquoi. Je levai de nouveau les yeux vers le couvent, dont je me mis alors à faire le tour, en partie pour me ménager le temps de la réflexion, en partie parce que j'éprouvais une inexplicable curiosité dont je m'étonnais moi-même, mais qui ne m'en poussait pas moins à examiner l'extérieur du bâtiment avant de chercher à m'en ménager l'accès. Au chevet de l'édifice, je découvris une espèce de hangar appuyé au mur, construction grossière que le temps avait à moitié détruite et dont le toit s'était en partie écroulé à l'intérieur. Sur une des parois latérales, je remarquai une cavité irrégulière qui avait dû être jadis la baie d'une fenêtre. Derrière le hangar, le bois se refermait, plus dense que partout ailleurs. En regardant ces arbres pressés l'un contre l'autre, je ne pouvais plus me rendre compte ni des mouvements ni de la nature du terrain. Je ne voyais plus que feuillages envahissants, buissons enchevêtrés, bruyères touffues, herbes longues et luxuriantes. Pas un son ne venait rompre ce silence qui m'oppressait. Pas un chant d'oiseau ne s'élevait de ces masses de feuillages au milieu desquels j'étais perdu. Derrière le mur sombre et rechigné, aucune voix ne s'élevait dans les jardins du couvent. L'heure ne sonnait pas au beffroi de la chapelle. Dans le hangar ruiné, nul chien n'aboyait. Un silence de mort ajoutait je ne sais quelle inexprimable horreur à celle d'une solitude si complète. Je commençais à sentir mon esprit fléchir sous leur influence écrasante, et cela d'autant mieux que je n'ai jamais beaucoup aimé à errer dans la profondeur des bois. L'espèce de félicité pastorale que dépeignent les poètes quand ils chantent la vie libre et cachée de l'habitant des forêts n'a jamais eu à beaucoup près dans mon esprit le même charme que celle dont jouit le montagnard ou l'habitant des plaines. Lorsque je suis dans un bois, l'ample beauté des cieux manque à mes regards, ainsi que la lourdeur ineffable des horizons lointains et à moitié perdus dans la brume. Je ressens, à demi étouffé, la modification que subit l'air libre quand il a pénétré une fois sous les voûtes épaisses où les arbres le retiennent. Et cette lueur mystérieuse qui filtre à travers les branches, semant çà et là d'étranges reflets, m'a toujours semblé plus solennelle qu'attrayante. On m'accusera peut-être de manquer de goût et de refuser aux splendides efflorescences de la végétation l'hommage qui leur est dû. Mais je ne pénètre jamais dans un bois sans apprécier comme le meilleur moment de ma promenade celui où je débouche en rase campagne, sur les dunes les plus stériles, sur les coteaux les plus dépouillés, sur la cime la plus nue et la plus revêche d'une montagne quelconque. Peu m'importe, pourvu que j'aie le ciel sur la tête et que mon œil se porte sans obstacle sur tous les points de l'horizon lointain. Après un aveu comme celui que je viens de faire, personne ne s'étonnera que, debout, auprès de la pentie ruinée, j'éprouvasse le vif désir de retourner sur mes pas et de me tirer comme je pourrais de ce labyrinthe boisé. Je m'apprêtais en effet à m'éloigner lorsque le souvenir de la mission que je venais remplir au couvent m'arrêta, pour ainsi dire, sur place. Il était douteux, si je sonnais la cloche, qu'on m'admît dans l'enceinte monacale, et plus que douteux, une fois admis, que les habitants de cette sainte retraite fussent à même de faciliter mes recherches par le plus simple renseignement. Je n'en devais pas moins à Moncton de ne rien négliger pour l'assister dans cette exploration qu'il poursuivait ainsi contre toute espérance. Aussi pris-je le parti de revenir devant la grande porte du couvent et de sonner la cloche à tout risque. Ce fut par le plus grand des hasards que, venant à passer contre celle des murailles de la Pantie où était pratiquée l'ouverture irrégulière dont il a été question, j'observai qu'elle était percée un peu plus haut que de raison. Au moment où cette remarque venait de m'arrêter, l'épaisse atmosphère du bois me sembla soudain plus suffocante et plus intolérable que jamais. Prolongeant ma halte d'une minute ou deux, j'en vins à défaire ma cravate pour respirer plus à l'aise. Ce n'était pas là, bien certainement, une atmosphère naturelle. La difficulté de respirer m'affectait moins désagréablement que certaines odeurs vagues et difficiles à décrire. Une odeur que je ne connaissais pas encore. Une odeur qui, maintenant que j'y prenais garde, semblait émaner de cet affreux hangar, plus distincte à mesure que je m'en rapprochais. Quand je m'en fus assuré par deux ou trois épreuves, ma curiosité s'éveilla. Les fragments de pierres et de briques foisonnaient autour de moi. J'en amoncelai une certaine quantité au-dessus de la baie irrégulière que j'ai décrite, et, non sans quelque honte d'agir ainsi, je regardai furtivement à l'intérieur du hangar. L'horrible spectacle que j'eus alors sous les yeux en ce moment est aussi présent à mes souvenirs que si cette scène datait d'hier. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis lors, tout au plus puis-je le décrire sans éprouver le même serrement de cœur qui me prit au moment où je le contemplais pour la première fois. Sur une espèce de table soutenue par des tréteaux, gisait une forme vague, également teinte d'un bleu vague et léger. Elle offrait comme la hideuse ébauche d'un corps et d'un visage humain. En y regardant à deux fois, je vis que c'était bien cela. Les reflets du front, du nez, du menton se dessinaient comme sous un voile transparent. Ici la poitrine bombée, au-dessous un affaissement subi, plus loin la proéminence des genoux et la roideur immobile des pieds dressés sur leurs talons. Je regardais de rechef et plus attentivement encore. Mes yeux s'habituaient à l'obscure clarté que laissaient pénétrer les fissures du toit, et je m'assurais en calculant des pieds à la tête la longueur du cadavre que ce devait être celui d'un homme, cadavre jadis enveloppé d'un suaire et qu'on avait laissé se corrompre au grand air assez longtemps pour que cette enveloppe funéraire, moisissant elle aussi, prit la teinte livide et bleuâtre que je lui voyais maintenant. Je ne sais combien de temps je demeurai les yeux arrêtés sur ce tableau sinistre, sur ces débris d'un être humain privé de la sépulture qui leur était due, saturant l'air de leurs infectes émanations et qui semblaient corrompre jusqu'aux rayons de lumière à l'aide desquels je les pouvais discerner. Je me rappelle parmi les arbres un bruit sourd et lointain, celui de la brise qui s'élevait, ses progrès lents et furtifs jusqu'à l'endroit où je demeurais immobile, la chute muette d'une feuille morte qui, pénétrant par le toit délabré du hangar, vint s'abattre en tournoyant sur le cadavre, et l'effet immédiat que produisit sur moi cette modification si légère de l'horrible tableau étalé sous mes yeux. Je sentis à ce moment renaître mon énergie et se détendre l'effort de ma pensée. Je descendis à terre, où, m'asseyant sur les pierres amoncelées, j'essuyai la sueur épaisse qui couvrait mon front, sans que je m'en fusse aperçu jusqu'alors. Dans l'émotion qui ébranlait mes nerfs, il y avait quelque chose de plus que l'horreur soulevée en moi par le hideux spectacle en face duquel j'avais été mis à l'improviste. À l'instant même où sur ces tréteaux vermoulus j'avais aperçu le fardeau putréfié qu'il soutenait, La prédiction de Moncton m'était revenue à l'esprit que, si nous parvenions à découvrir le corps de son oncle, nous le trouverions privé de sépulture. Je restai convaincu dès cet instant que je venais de rencontrer notre mort. L'antique prophétie me revint à la mémoire et j'éprouvai simultanément une foule d'impressions diverses. Mélancolie étrange, vague pressentiment de malheurs à venir, terreur inexplicable. Je ne pouvais songer à ce pauvre garçon qui m'attendait au loin sans un frémissement de crainte superstitieuse qui m'ôtait tout bon sens, toute résolution, et me laissa, quand je fus parvenu à le dominer, dans un état de faiblesse et d'étourdissement, pareil à celui qui suit une forte douleur physique, poussée à ses extrêmes limites. Je gagnai précipitamment la porte du couvent et tirai la cloche avec impatience. Je sonnai de rechef après quelque temps et j'entendis alors un bruit de pas. Au centre de la porte massive et jusqu'à la hauteur de mon visage se trouvait un petit panneau à coulisses, large à peine de quelques pouces. Une invisible main le fit glisser dans ses rainures et j'aperçus à travers le grillage deux yeux d'un gris terne qui arrêtaient sur moi leur regard sans expression. En même temps s'élevait une voix faible et voilée. « Que désirez-vous » disait-elle. « Je suis, commençai-je, un voyageur. Nous sommes ici, interrompit la voix, bien pauvre et bien dépourvu. Nous n'avons rien qu'on puisse montrer aux touristes. Je ne demande à rien voir. Je viens ici poser une question essentielle, à laquelle je crois que quelqu'un de vous pourra répondre. Si vous ne voulez pas me laisser rentrer, sortez du moins et venez me parler. Vous êtes seul ? Absolument seul. Vous n'avez pas de femme avec vous ? Aucune. J'entendis les barreaux de la porte tomber lentement, et un vieux capucin, très infirme, très soupçonneux, très malpropre, vint se planter devant moi. J'étais trop agité, trop impatient pour perdre mon temps en préambule. Aussi racontai-je au moine, dès le début, comment j'avais regardé par la baie du hangar et ce que j'y avais vu. Puis, sans le moindre ménagement, je lui demandai qui était l'homme dont j'avais eu le cadavre sous les yeux. Et pourquoi le corps n'avait pas été confié à la terre. Le vieux moine, en m'écoutant, tenait fixé sur moi ses yeux chassieux, où la méfiance allumait quelques étincelles. Il tenait à la main une misérable tabatière en fer blanc, au fond de laquelle, tant que dura mon discours, son index et son pouce poursuivaient quelques grains de tabac épars çà et là. Lorsque j'eus fini, le capucin secoua la tête en disant qu'il y avait à coup sûr dans le hangar quelque chose d'assez laid à contempler. Je n'avais certainement rien vu d'aussi laid dans tout le cours de ma vie. « Ce n'est pas de cette laideur que j'ai à parler, » lui répliquai-je avec impatience. « Je désire savoir qui était cet homme, comment il est mort, pourquoi il n'est pas enterré selon les rites. Ne pouvez-vous me le dire ?» Les deux doigts du moine ayant fini par capturer 3 ou 4 grains de tabac, il les porta lentement jusqu'à ses narines, tenant la boîte ouverte pendant toute cette manœuvre, de manière à ne rien perdre de la précieuse substance. Après quoi, humant à 2 ou 3 reprises, avec volupté, les parcelles odorantes, il referma la tabatière, puis me regardant de nouveau, clignant de ses yeux chassieux avec plus de méfiance qu'il ne m'en avait encore témoigné, « Ma foi, disait-il, ce qu'on voit là-bas n'est guère beau, notre hangar n'a rien d'attrayant. » Jamais je n'ai eu plus de peine à me contenir que je n'en pris alors devant cette stupidité obstinée. J'arrêtai au passage néanmoins une épithète que j'avais sur le bout de la langue et qui n'avait rien de respectueux pour l'agent monacal, afin d'essayer encore si je ne pourrais pas vaincre l'exaspérante réserve du vieillard. Fort heureusement pour moi, j'étais priseur comme lui, et j'avais en poche l'excellent Macuba que j'exhibais alors comme une tentation irrésistible. Je jouais là mon va-tout. « Il m'a semblé, lui dis-je, que votre tabatière était épuisée. Me permettrez-vous de vous offrir une prise ?» Cette libéralité fut acceptée avec un empressement tout à fait juvénile. Le capucin accapara la plus ample pincée que j'ai jamais vue comprise entre l'index et le pouce d'un homme quelconque Il l'aspira lentement, sans en laisser choir un seul grain, ferma les yeux à demi, et avec un doux branlement de sa tête, me passa la main tout le long du dos par un geste éminemment paternel. « Oh, mon fils, disait le moine, que vous avez là d'excellent tabac! Cher enfant, aimable voyageur, donnez à votre père spirituel, à ce père qui vous aime, encore une prise toute petite. Laissez-moi remplir votre tabatière, il m'en restera toujours bien assez. » Avant que j'eusse achevé cette seconde phrase, la pauvre boîte de fer-blanc m'avait été remise. La main paternelle se promenait, plus caressante que jamais, le long de mon dos. La voix faible et voilée se répandait en éloges flatteurs, en remerciements pleins d'éloquence. J'avais évidemment trouvé le défaut de la cuirasse, et lorsque je rendis sa tabatière au vieux capucin, je tirai immédiatement parti de ma nouvelle situation. « Excusez-moi, lui dis-je, de traiter encore avec vous cet ennuyeux sujet. J'ai, voyez-vous, des raisons particulières pour vous prier de me raconter tout ce que vous pouvez savoir au sujet de ces horreurs cachées dans votre hangar. »« Entrez, répondit le moine. » Il me fit franchir le seuil, il ferma la porte et, me guidant ensuite à travers une grande cour envahie par des herbes touffues, laquelle donnait sur un plantureux jardin potager, il me conduisit dans une longue salle au plafond bas, dont les seules décorations consistaient en un dressoir mal tenu, quelques bancs ornés de sculptures grossières et deux ou trois sombres toiles que la moisissure envahissait. C'était la sacristie du couvent. « Nous sommes seuls ici, dit le vieux capucin. C'est un bon endroit et il y fait frais. » Si frais, c'est-à-dire si humide, que le frisson me gagnait déjà. « Vous plairait-il de visiter notre église ?» reprit le moine. « Un vrai bijou, si nous étions assez riches pour l'entretenir, mais il s'en faut. Ah, malédiction et misère sur nous, n'avoir pas ce qu'il faut pour entretenir notre église !» Alors, secouant de nouveau la tête, il se mit à faire tinter entre ses doigts débiles son énorme trousseau de clés. « Laissons là pour le moment ce qui regarde l'église, » repris-je, me contenant à peine. « Pouvez-vous, oui ou non, me dire ce que je voudrais savoir. D'un bout à l'autre, tout ce que vous voudrez, absolument tout. N'ai-je pas répondu au coup de cloche ? C'est toujours moi qui vais ouvrir, » continua le capucin. « Quel rapport y a-t-il, au nom du ciel, entre la cloche qui vous appelle et le cadavre non enseveli que recèle votre hangar ? Écoutez, mon fils, et vous le saurez. Il y a quelque temps, quelques mois, ah, miséricorde, je me fais vieux, je perds la mémoire, je ne sais plus combien il y a de mois. Quelle pitié, mon Dieu, quel vieux moine je suis maintenant !» Et il se consola de sa vieillesse avec une nouvelle prise de mon délectable tabac. « La date exacte m'importe peu, lui dis-je, ce n'est pas cela qui doit vous préoccuper. »« Tant mieux, dit le capucin, je pourrai maintenant continuer. » »« Eh bien, nous disons donc qu'il y a quelques mois, nous voilà tous assis au déjeuner, maigre déjeuner, mon fils, que ceux qui se font en ce couvent. Tous à déjeuner, quand nous entendons deux fois de suite un bruit terrible. Boum, boum ! Des coups de fusil, dis-je. Sur quoi tire-t-il ? Demande le frère Jérémie. Sur le gibier, répond le frère Vincent. Ah oui, du gibier, continue le frère Jérémie. Si j'entends encore quelque chose, j'enverrai savoir ce qui en est, interrompt le père supérieur. Nous n'entendons plus rien. Et nous voilà continuant notre méchant déjeuner. D'où venaient les détonations ? Demandai-je. Elles venaient d'en bas, de derrière ces grands arbres que vous avez vus au chevet du couvent, d'un endroit où il y a une assez grande clairière. Bon terrain, ma foi, n'étaient les mares et les flaques d'eau. Mais hélas, que d'humidité par ici ! L'humidité nous dévore ! Qu'arriva-t-il après ce bruit d'armes à feu ? Vous allez le savoir. Nous voilà tous reprenant notre déjeuner, et tous en silence, car nous n'avons pas grand-chose à nous dire, voyez-vous. Nos dévotions, notre jardin potager, deux malheureux repas chaque jour, qu'avons-nous de plus pour nous distraire ? Je disais donc que nous mangions tous, sans articuler un seul mot, lorsque tout à coup la cloche retentit, tirée bien plus violemment que nous ne l'entendîmes jamais. Une cloche enragée ! Une cloche qui, nous trouvant bouche pleine, arrêta court le jeu de nos mâchoires. Allez, mon frère, allez, me dit le père supérieur, allez, c'est votre devoir, allez ouvrir la porte. Je suis brave comme le lion, quoique capucin. J'y vais donc sur la pointe du pied. J'attends, j'écoute, j'entr'ouvre notre petit guichet. J'attends, j'écoute encore, je regarde par la fente. Rien, absolument rien que je puisse distinguer. Je suis brave et ne connais guère d'obstacles. Que faire alors? J'ouvre la porte. Sainte Mère du ciel, que vois-je étendu en travers du seuil? Un homme, et il était mort. Un gros homme, plus gros que vous, plus gros que moi, plus gros que n'importe lequel de nos religieux, serré dans un bel habit boutonné, ses yeux noirs, tout grands ouverts et fixés sur le ciel, le devant de sa chemise imbibé de sang. Que faire? Je crie une première fois, je crie une seconde, je reviens à toute course vers notre supérieur. Tous les détails du fatal duel que j'avais recueilli dans le journal français, dont j'avais pris lecture chez Moncton, se représentèrent vivement à ma mémoire. Ce que m'avait fait soupçonner le premier coup d'œil jeté par moi dans l'intérieur du hangar devint à mes yeux une certitude lorsque j'entendis le vieux moine prononcer ses dernières paroles. Jusque-là, lui dis-je, rien que de très clair. Le cadavre que je viens de voir dans votre appentis est celui de l'homme que vous trouvâtes mort à la porte du couvent. Dites-moi maintenant pourquoi ces restes n'ont pas obtenu de vous un ensevelissement honorable.
Doucement, 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 répondit le capucin. Procédons avec ordre, s'il vous plaît. Le supérieur entend mes cris et vient à moi. Nous courons tous à la porte. Nous soulevons le gros homme pour l'examiner de plus près. Il était mort, aussi mort que ceci, et de la main il frappait le dressoir. On le tourne, on le retourne, et on trouve fixé par une épingle au collet de son habit un morceau de papier. Oh oh, mon fils, ceci vous fait tressaillir. Je pensais bien que je finirais par vous émouvoir. En effet, j'avais tressailli. Ce papier était sans doute la feuille mentionnée dans le récit inachevé du témoin qui l'avait, disait-il, arraché de son agenda et sur laquelle était écrit le résumé des accidents qui avaient amené la mort du malheureux duelliste. Si donc nous avions manqué d'une preuve matérielle pour établir l'identité du cadavre, cette preuve désormais nous était acquise. « Que croyez-vous qu'on avait écrit sur ce morceau de papier ?» continua le capucin. Nous le lûmes avec un frémissement d'horreur. Cet homme venait de mourir, frappé dans un duel. Il était mort, le misérable, désespéré, en état de péché mortel. Et ceux-là même qui avaient assisté au meurtre nous demandaient, à nous autres capucins, gens dévots s'il en fut, serviteurs du ciel, enfants de notre Seigneur le Pape, ils nous demandaient de rendre à ce malheureux les derniers devoirs. En lisant ceci, nous sentîmes tous qu'il nous faisait outrage. Nous voilà gémissant, tordant nos mains, nous écartant du cadavre, arrachant notre barbe à pleine poignée. Un moment, interrompis-je, voyant que le vieillard s'échauffait dans son récit, et que si je n'opposais une digue à son éloquence débordante, il allait se noyer de plus en plus dans d'inutiles détails. Un moment, de grâce, arrêtez-vous. Ce papier fixé à l'habit du défunt, l'avez-vous conservé? Pourriez-vous le faire passer sous mes yeux? Le capucin semblait sur le point de me répondre, lorsque tout à coup il s'imposa silence. Il cessa de me regarder au visage, et j'entendis au même moment, derrière moi, le léger bruit d'une porte qu'on ouvrait et refermait avec précaution. Tournant la tête aussitôt, je constatai dans la sacristie la présence d'un autre moine, personnage de haute taille, maigre, à barbe noire, devant lequel l'attitude de mon vieil ami à la tabatière se transforma tout à coup et devint des plus édifiantes. Je conjecturai que c'était là le père supérieur, et dès les premières paroles qu'il m'adressa, il fut clair pour moi que j'avais deviné juste. « Je suis à la tête de ce couvent, me dit-il, d'une voix calme et sonore, en me regardant droit au visage tandis qu'il parlait, de ses yeux froidement attentifs. J'ai entendu la dernière partie de votre conversation, et désire savoir pourquoi vous attachez un si grand prix à examiner le fragment de papier qu'on avait fixé à l'habit de ce mort. Le sang-froid avec lequel il avouait nous avoir écoutés et le calme impérieux qu'il mettait à me questionner me troublèrent et accrurent encore mes perplexités. Tout au plus, au premier abord, savais-je bien sur quel ton lui répondre. Il remarqua mon hésitation, et l'attribuant à d'autres causes que les véritables, il fit signe au vieux capucin de se retirer. Avec une humble caresse à sa longue barbe grise, et s'administrant à la dérobée une nouvelle prise de cet excellent tabac, si fécond en consolation, mon vénérable ami se glissa hors de la chambre, non sans m'adresser une révérence profonde au moment où il allait disparaître. « Et maintenant, dit le père supérieur, tout aussi froidement que par le passé, j'attends, monsieur, que vous daignez me répondre. « C'est ce que je vais faire dans les termes les plus brefs, lui répondis-je sur le même ton. Je constate avec dégoût, avec horreur, que dans un des bâtiments accessoires de votre couvent, un cadavre est déposé, lequel aurait dû être enfoui depuis longtemps. Je crois que ce cadavre est celui d'un gentleman anglais, riche et bien né, qui a péri à la suite d'un duel. Je suis venu dans les environs avec le neveu et unique parent du défunt, tout précisément pour y chercher ses restes. Et si je demande à voir le papier fixé à l'habit du mort, c'est que je compte trouver dans ce papier de quoi dissiper toutes les incertitudes du parent auquel je viens de faire allusion. Trouvez-vous ma réponse suffisamment claire et nette ? Comptez-vous me donner la permission d'examiner le papier ? Votre réponse me paraît catégorique, et je n'ai aucun motif de vous refuser la communication à laquelle vous tenez si fort, me répondit le supérieur. Mais au préalable, passez-moi quelques observations. En parlant de l'impression que l'aspect du cadavre a produite sur vous, vous avez employé les mots de dégoût et d'horreur. Se laisser aller de paroles touchant ce que vous avez pu voir à l'intérieur d'un couvent me prouve que vous n'appartenez pas à la Sainte Église catholique. Cela seul me dispenserait, à la rigueur, de vous fournir des explications que vous n'avez pas le droit de réclamer. À titre officieux, cependant, je veux bien vous en donner une. L'homme dont il s'agit est mort en commettant un péché mortel, dont l'absolution n'a pu lui être donnée. Ceci résulte du papier trouvé sur son corps, et nous savons, par le témoignage de nos yeux et de nos oreilles, qu'il a été tué sur le territoire pontifical, au moment même où il violait les édits spéciaux contre le duel, et dit dont le Saint-Père lui-même, par des lettres signées de sa main, vient de prescrire l'exécution la plus stricte aux fidèles qui peuplent ces états. Le sol de ce couvent est ce que nous appelons Terre Sainte, et nous n'avons pas coutume, nous autres catholiques, d'enfouir en Terre Sainte les bannis de l'Église, les ennemis de notre Saint-Père, les violateurs de nos lois les plus sacrées. Hors de ce couvent, nous n'avons aucun droit, aucune autorité. En fût-il autrement, nous nous souviendrions encore que nous sommes des moines, non des fossoyeurs, et que pour obtenir notre participation à des funérailles quelconques, il faut que ces funérailles puissent être faites selon les rites de l'Église et avec les prières qu'elle prescrit. Là se borne l'explication que je crois utile de vous donner. Maintenant, veuillez m'attendre, et le papier en question passera sous vos yeux. Le supérieur, à ces mots, sortit de la sacristie aussi paisiblement qu'il y était entré. J'avais à peine eu le temps de méditer cette amère et disgracieuse réplique, qui n'avait pas laissé de me mortifier quelque peu, lorsque le supérieur revint avec le papier annoncé. Il l'étala devant moi sur le dressoir, et je lus les lignes suivantes, précipitamment tracées au crayon. Nous attachons ce papier au corps de M. Stephen Monckton, gentilhomme anglais de haute naissance. Il a succombé à la suite d'un duel où les deux champions se sont honorablement et vaillamment conduits. Son corps est déposé au seuil de ce couvent, avec l'espoir que ceux qui l'habitent voudront bien lui accorder les honneurs funèbres. Et cela parce que les personnes survivant au combat se voient réduites à se disperser, à fuir sans retard, pour se soustraire à un danger imminent. Je soussignais, témoin du défunt, certifie sur ma parole de gentilhomme que M. Monckton a été frappé loyalement, en conformité stricte avec les conventions faites d'avance pour l'accomplissement du duel. Pour toute signature, un F. Il était aisé d'y reconnaître l'initiale du nom de M. Foulon, le témoin de M. Monckton, décédé à Paris peu de temps après la fatale rencontre. Ainsi donc la découverte était faite, l'identité n'offrait plus de doute. Il ne fallait plus que rapporter le tout à mon ami et obtenir la permission de retirer du hangar les restes de son oncle. J'étais presque tenté de me refuser au témoignage de mes propres sens, en voyant accompli déjà par le seul fait du hasard le dessein en apparence impraticable qui nous avait entraînés hors de Naples. Ce papier, dis-je en le restituant au moine, constitue un témoignage irrécusable. Nul doute que les restes abrités dans votre hangar ne soient les mêmes que nous sommes venus chercher. Pourrais-je savoir si quelques difficultés seront soulevées au cas où le neveu de feu M. Monckton voudrait transporter en Angleterre pour les déposer dans le tombeau de famille les restes mortels de son malheureux oncle? Où est ce neveu? Demanda le supérieur. À Fondi, où il attend mon retour. Est-il à même d'établir les liens de parenté qui l'unissaient au défunt? Sans le moindre doute, les papiers dont il est porteur ne sauraient laisser place à aucune controverse. Qu'il se mette donc en règle avec les autorités civiles, et personne ici ne lui contestera les droits qu'il revendique. Je n'étais pas d'humeur à prolonger une conversation que le langage aigre-doux de mon interlocuteur ne me rendait nullement agréable. La journée avançait rapidement, et dû la nuit me surprendre, j'étais bien décidé à ne plus faire halte avant d'avoir regagné Fondi. C'est pourquoi, prévenant le supérieur qu'il entendrait bientôt parler de nous, je le saluai poliment et sortis en hâte de la sacristie. Je retrouvai à la porte du couvent mon vieil ami, l'amateur de tabac, qui m'attendait pour m'ouvrir la porte. « Dieu vous bénisse, mon fils !» me dit le vénérable reclus en déposant sur mon épaule une dernière caresse d'adieu. « Ne tardez pas à revenir voir votre père spirituel dont vous êtes le bien-aimé. Accordez-lui une autre prise, toute petite, petite, de votre délicieux tabac. »